Pâques. Cette semaine, et je vous repasse nos petites règles que vous connaissez, nous allons enfoncer le clou antique de l'architecture, pour cette fois travailler dans le domaine de l'architecture romaine. Architecture et urbanisme, d'ailleurs, on va un peu coupler les deux. Pour la question, d'ailleurs, de l'architecture romaine, les deux vont assez volontiers ensemble. Et ce que je vous propose pour qu'on commence cette séance, qui sera faite de deux chapitres, c'est d'abord de vous passer toute une série de monuments antiques romains que vous allez, un, essayer de reconnaître, et deux, dont vous allez me dire à quoi ils servaient. Hein. Parce que c'est bien de dire « Ah, oh, ben, ça, c'était le monument », mais c'est mieux de savoir quelle était la fonction du monument en question. Puis on essaiera éventuellement, monument par monument, de trouver certains éléments, de s'interroger sur eux. Bon, voilà, on va voir au fur et à mesure. Vous êtes prêts? Donc, premier chapitre. Je vous montre des monuments et nous essayons de reconnaître de quel monument il s'agit et à quoi servaient les monuments en question. Alors, on commence par ceci. Alors, un arc de triomphe, très bien. Quel arc de triomphe? Ça ressemble à celui d'Orange. Ben, non seulement ça ressemble, mais c'est celui d'Orange. Hein. C'est l'arc de triomphe d'Orange. Hein. Bien. Alors, ok, c'est l'arc de triomphe d'Orange, mais ça ne me dit pas ce que c'est qu'un arc de triomphe. Qu'est-ce que c'est qu'un arc de triomphe? C'est pour célébrer, oui. Célébrer quoi, par exemple?
Une victoire.
Est-ce que vous savez, par exemple, sans dire, d'ailleurs, on ne le sait pas avec une totale précision, mais vraisemblablement, pour quelle raison a été élevé l'arc de triomphe et quand? Oui, l'arc de triomphe d'Orange. Quand à peu près, je ne vous demande pas une date précise, hein, mais à quelle période, grosso modo, l'arc de triomphe d'Orange a-t-il été élevé et pour quelle raison un peu plus précise que la raison générique que vous avez donnée? D'abord la date. Une idée? Premier siècle? Oui, il date du début du premier siècle. Hein, voilà. Et est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle on a élevé cet arc de triomphe d'Orange?
Oui, mais...
Pour une victoire, effectivement. c'est effectivement pour célébrer la victoire. Mais de qui contre qui c'est une victoire? Quoi, c'est Napoléon qui a vaincu le pape? Ah, bah ah, oui, mais moi, faut tout me dire, moi. Moi, faut tout me dire parce que moi, je ne sais rien. Alors, si vous ne me dites pas, moi, je ne sais pas. Hein. La pédagogie, c'est ça, c'est faire dire ce qui paraît évident. Et on remarque que ce qui est évident, je ne le fais pas toujours autant qu'on l'imagine. Alors, victoire de qui contre qui?
Des Romains.
Des Romains contre... Ben voilà, les gens du coin, c'est effectivement certaines populations gauloises, locales. Hein. Vous savez qu'ici, c'était les Gaulois avant les Romains. Hein. Ça va mieux en 10 ans quand même. Eh bien, les Romains ont effectivement, au début du 1er siècle, élevé cet arc de triomphe à Orange pour célébrer leur emprise sur ce territoire. Hein. Donc l'arc de triomphe d'Orange est effectivement un arc qui date du 1er siècle. Bien.
Oh, c'est Autun, ça?
Autun, absolument.
La porte Saint-André.
C'est la porte Saint-André à Autun. Hein. Vous en connaissez d'autres, des portes à Autun?
Ah, bah oui, l'autre.
Lesquelles? La porte d'Arro. Il hein. Y en a d'autres encore?
Oh non. À Autun, non?
À Autun, non. Donc il y a deux portes, la porte Saint-André et la porte d'Arro. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette porte? D'abord, là aussi, même question. De quand date-t-elle et à quoi servait-elle? Premier siècle.
Auguste.
Okay. De l'époque d'Auguste. Et à quoi ça sert? À entrer dans la ville. Quelle est la différence entre ça et ce qu'on vient de voir avant? Pardon? Donc la différence entre la porte Saint-André que nous avons ici, c'est qu'elle ne célèbre pas une victoire, alors que l'arc d'Orange, lui, en célèbre une. Ok? C'est la seule différence.
Mais non, elle s'est prise dans une enceinte.
Pardon.
Elle est incluse dans un rempart.
La porte d'Arou, enfin la porte Saint-André, pardon. Oui, absolument. C'est-à-dire que vraiment, la porte que vous avez là est incluse dans le rempart. Est-ce que c'était le cas de l'Arc d'Orange ?
Non.
Hein ? L'Arc d'Orange, il se situe où par rapport au rempart de la ville d'Orange ? Non, il était à l'extérieur. Hein ? Voilà. Donc, si vous voulez, un arc de triomphe n'a rien à voir avec un rempart. Un arc de triomphe, ce n'est pas une porte. Enfin, c'est une porte parce qu'on peut passer dessous. Hein ? Mais ce n'est absolument pas une porte qui permet d'entrer dans une cité. Alors qu'une porte monumentale comme ça, ça sert à entrer dans une cité. Une porte, elle est dans un rempart, alors qu'un arc de triomphe est absolument hors d'un rempart. On peut dire, imaginer aussi lors d'un arc de triomphe à l'intérieur d'une cité, comme vous. C'est pas le cas à Orange, hein, mais on peut avoir un arc de triomphe aussi à l'intérieur d'une cité. Hein, il y a évidemment des cas. Hein. Mais un arc de triomphe ne permet pas d'entrer ou de sortir d'une ville. Hein. Un arc de triomphe, c'est un monument commémoratif en forme de porte, très bien, mais qui ne sert pas à entrer ou sortir, ce qui est le cas de la porte Saint-André que vous voyez là, qui date effectivement du 1er siècle. À Autun, c'est pas très compliqué. Il y avait en fait dans l'Antiquité, à l'époque romaine, quatre portes. Une au nord, une au sud, une à l'est, une à l'ouest. Hein ? Voilà, parce que là, vous savez que l'urbanisme romain est généralement extrêmement orthonormé. Hein ? La ville d'Autun avait une sorte de forme de grand losange. Alors il y avait une porte au nord, la porte d'Arou, une porte à l'est, la porte de Saint-André. Une porte à l'ouest, dont il reste des éléments d'ailleurs, enfin qu'on voit peu si on connaît mal la ville, qui s'appelle la porte Saint-Andoche, puis il y avait une porte au sud qui a complètement disparu. Hein. Ça, c'est la porte, effectivement, Saint-André. Vous pouvez me la décrire, cette porte Saint-André ?
Elle a un étage,
oui.
Pour surveiller les gens qui arrivaient ?
Ça sert effectivement à surveiller également la porte.
Hein. Vous pouvez payer pour
rentrer ? Il pouvait y avoir une dimension, effectivement, de taxe.
Et on pouvait fermer ?
Et on pouvait fermer. Hein. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y a deux baies centrales pour, évidemment, les chars, deux baies latérales pour les piétons, effectivement, une partie supérieure où il y a notamment des gardes. Hein. Il y a autre chose également que vous devinez concernant cette porte, que l'on voit souvent dans les portes des villes romaines antiques. Que vous devinez, je dis bien, parce que... La photo est un peu courte.
On voit la construction latérale qui doit s'accrocher au rempart.
Oui.
Alors, elle est en petit appareil.
Oui. Alors, effectivement, vous voyez que la porte, elle est construite comment ? Elle est construite en quoi ?
En gros.
En gros appareil, en grosse pierre, bien taillée. En gros appareil, hein. C'est de la grosse pierre taillée, hein. C'est du boulot, du calcaire. Hein. Alors qu'effectivement, aux deux extrémités, qu'est-ce que vous voyez ? Voilà, hein, des petites pierres. Alors là, en plus, ça a été arasé, donc on voit, je dirais, l'intérieur du mur. Parce que commence après la porte quoi, décidément ? Les remparts. Hein. Et quoi précisément des remparts ? Qu'est-ce que vous voyez là ? Vous devinez là ? Hélas, je n'avais pas de photo plus large. Parce que moi, vous me dites rempart, je vois la porte, puis je vois le rempart. C'est tout, hein, je ne vois pas plus compliqué. Or, c'est pas ça.
Il y a une maison.
Une maison dans un rempart, il y a des maisons, des petites maisons.
Je ne sais pas, il me semble qu'il y a une fenêtre.
Ah, alors, ici, vous voulez dire, tout ça a quand même 2000 ans, hein, donc a subi quelques petites dégradations. Et vous voyez qu'ici, le mur a été arasé. Hein. Alors là, la construction, vous voyez là, était plus haute à l'origine. Aujourd'hui, elle est un peu en dégradé. Mais qu'est-ce que c'est que cette construction à gauche ? À droite, pardon. Pardon ? Oui, mais c'est quel genre de construction ? Parce qu'encore une fois, moi, vous me dites, elle est dans le rempart. Très bien. Donc, il y a la porte, puis il y a le rempart.
Elle n'est pas en pierre.
Alors, elle est en pierre, mais effectivement, un appareil, vous le voyez aussi bien là, dans le mur qui a été arasé, coupé, que là, où le mur n'est pas coupé, c'est des petites pierres, hein, des pierres plus petites. Hein, un petit appareil de pierre. On n'est pas devant des gros blocs calcaires bien appareillés, hein. On est devant des murs faits avec une pierre différente. Hein. C'est généralement du granit, du grès, alors que là, c'est du calcaire. Hein. Mais encore une fois, qu'est-ce que vous notez là ? Il y a quelque chose qui apparaît, je crois. Pardon ? Eh bien, c'est une tour. Vous m'avez dit qu'il y avait des remparts. Porte, rempart. Vous n'avez pas du tout dit qu'il y avait des tours. Ben, il n'y a pas vraiment des tours dans les remparts. Or là, vous voyez qu'il y a une tour. En fait, il y avait la même à gauche. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, vous aviez dans ces portes romaines une porte et de chaque côté une tour. Une tour hémicirculaire, ou plutôt hémicylindrique. D'accord, hein? Là, la tour, elle existe toujours. Il y a d'ailleurs dedans une chapelle qui a été installée au Moyen-Âge, qu'on appelle la chapelle Saint-André. Enfin, qui est la chapelle Saint-André, c'est pour ça que la porte s'appelle la porte Saint-André. C'était pas son nom dans l'Antiquité. Hein? Et là, vous aviez une autre tour, hein, qui faisait un demi-cercle aussi, mais qui a été donc arasée. C'est pour ça que vous voyez l'intérieur du mur. D'accord? Pourquoi est-ce que la porte est réalisée avec des gros blocs de pierre calcaire bien solides, alors que les tours et les remparts qu'il y a donc de chaque côté sont faits avec des petits blocs d'une pierre plus, enfin, différente, du grès ou du granit, et de petites dimensions. Et
l'idée de la gloire de la ville.
Voilà, l'idée de la gloire de la ville, ouais, mais encore.
Il y a des ouvertures là, donc il faut que ça supporte le haut, donc ils ne peuvent pas mettre des petites pierres.
Aussi. Mais...
Oui, on aurait pu, c'est vrai, avec des petites pierres, on met un peu plus de béton. Hein. Oui, alors effectivement, les gros blocs ont quand même une dimension, vous avez raison quand même, hein, de solidité. Hein. C'est-à-dire que bien sûr, c'est vrai quand même, hein, puisque c'est des gros blocs, on a des éléments assez solides qui permettent notamment aux chars de passer sans encombre, dirons-nous. Oui. Et puis, il y a peut-être d'autres raisons qui vont un peu dans le sens de vous disiez. Vous parliez... Il n'est pas froid, ici. Vous parliez de la gloire de la ville. Le prestige.
Oui.
Mais comment le prestige apparaît-il à travers des pierres?
Mais si, parce que
les pierres, le prestige...
Celui qui arrive, il voit...
C'est
plus
imposant.
Pardon?
C'est plus imposant.
Voilà, c'est effectivement, les grosses pierres bien taillées sont un peu plus imposantes, hein, alors que les petites pierres des remparts sont effectivement plus banales, plus communes. Hein. Finalement, ça permet de donner à la porte quelle valeur, entre guillemets?
Valeur de symbole d'entrée de la ville.
Oui.
Une ville d'empire, peut-être.
Oui.
La ville est riche.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire la porte de la ville, même si ça n'est pas un arc de triomphe qui célèbre un événement particulier, elle doit quand même, de manière générique, non pas célébrer la victoire de Bidule sur je ne sais qui à quel moment, hein, mais elle doit quand même célébrer l'importance de la ville, d'une manière générique. Hein. C'est pas un arc de triomphe, décidément. Mais la porte, c'est quand même quelque chose qui vient montrer le prestige de la ville. Alors, si vous voulez, un caboulot avec deux vagues trous pour rentrer, ça ne le fait pas, si vous voulez. Il faut quand même quelque chose de convenable. Hein. Alors, vous faites une porte avec de gros blocs de calcaire, hein, qui se taillent bien, en plus. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de tailler du grès ou du granit. Voilà, c'est un peu compliqué. Vous allez avoir de grosses pommes de terre, en gros. Hein. Alors que le calcaire, ça se taille bien. Dans le calcaire, vous pouvez faire de la sculpture, pas dans le grès ou le granit. Ce sera vraiment trop dur. Hein. Autrement dit, en faisant les portes en calcaire, vous pouvez avoir de belles portes qui, à l'entrée de la ville... montre quand même que c'est pas n'importe quelle ville, hein, c'est Augustodunum, hein, la ville d'Auguste, la ville de l'empereur, fondée par lui. Hein. Ça, c'est chic quand même. Hein. Alors que les remparts, bon, bah, c'est des remparts. Hein. Il faut en gros qu'ils soient là, qu'ils soient à peu près solides, hein, mais enfin qu'ils soient faits en petits matériaux, un peu moins bien, c'est pas bien grave. Hein. Donc vous voyez que la porte, c'est un élément utilitaire, mais un élément qui a quand même une dimension de prestige. Et ça.
Bah, c'est une porte encore, apparemment.
Une porte ?
Mais...
Alors, c'est un arc ou c'est une porte ?
Ça peut être les deux.
C'est les deux ?
Ça peut être les deux.
Ah, va quand même falloir choisir.
Parce qu'il y a des sculptures au-dessus.
Alors, on voit effectivement des sculptures. Hein. Vous avez là des éléments sculptés qui courent sur... Tiens, sur quoi d'ailleurs ? Ça s'appelle comment, ça ? Pardon ?
Non, vais...
Pas le linteau. Revoyez vos notes de la fois dernière. Alors, on révise notre élévation du temple grec, mais qui vaut également pour l'architecture romaine.
L'architrave.
C'est voilà. Sur l'architrave, vous avez effectivement, hein, sur la frise de l'architrave, vous avez des reliefs sculptés. Hein. Très bien. Parce qu'il y a une continuité d'un cours à l'autre, vous l'avez remarqué. Hein. C'est réfléchi.
Il y a des colonnes aussi.
Oui, absolument, des colonnes. D'ailleurs, ces colonnes, elles sont de quel type, hein, et elles sont de quel...
Corinthiennes.
Sont des colonnes d'ordre corinthien, absolument. et sont des colonnes un peu particulières.
Oui, parce qu'elles
sont engagées.
Sont
des colonnes engagées.
Et avec un très haut soubassement.
Oui, elles ont un très haut soubassement. Voilà. Alors, porte ou arc de triomphe?
Arc.
Qu'est-ce qui vous fait dire, et vous avez raison, que c'est un arc et pas une porte? C'est qu'il n'y a rien à droite et à gauche. Alors là, vous allez me dire, on aurait pu détruire à droite et à gauche. Là, c'est possible, hein, avec des scies. Bon. Mais non, c'est un élément unique, si vous voulez, qui n'est pas pris dans un rempart. C'est donc un arc de triomphe. Et cet arc de triomphe, qui, à votre avis, date de quelle période, il se trouve où?
Il ne sera pas dans les Alpes?
Oui, dans les Alpes.
Oui, c'est en pleine campagne.
Dans les Alpes, absolument, dans la campagne. Pas si loin d'ici, d'ailleurs. Enfin, tout près, mais pas si loin.
Les Alpes du Sud, plutôt.
Oui.
Entre les deux.
Plutôt. Oui. Mais plutôt au Sud, oui.
Oui, mais c'est pas Vésubie.
Pardon ?
Saint-Martin-Vésubie, c'est dans ce coin-là ?
Non.
Vers
Orange ? Non. Enfin, c'est plus près d'Orange ou de Vienne que de chez nous, mais...
C'est en Isère, non ?
Non, c'est en Italie.
Hein ?
Les Romains en Italie, ça n'étonnera personne. Hein ? C'est à Suse. Hein ? Suse est une cité du Val d'Aoste, grosso modo. Hein ? Et donc, voilà, c'est l'arc de Suse. Hein ? Et alors, là aussi, est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle l'Arc de Triomphe a été élevé?
C'est un passage des Alpes glorieux.
Alors voilà, il y a le fait que c'est un peu un passage dans les Alpes, donc c'est bien choisi. Hein. Généralement, on ne met pas un Arc de Triomphe, pof, garé dans un coin où personne ne passe. Hein. On met ça à un endroit où, quand même, ça rejette un peu. Hein. Voilà, il y a ça. Et à votre avis, là aussi, quelle peut être la raison de la construction de cet arc?
Ouais, une victoire.
Une victoire, oui. Oui, alors très précisément, cet arc de Suse a été construit au 1er siècle aussi, mais au 1er siècle avant Jésus-Christ, par un souverain local, un roi local, d'un peuple gaulois qui habitait ce secteur, qui voulait se soumettre à Rome, et qui, pour montrer, si vous voulez, sa soumission à Rome, a fait construire cet arc. Hein, une manière donc de donner allégeance. vous avez remarqué qu'il y avait effectivement une frise sculptée ici, et autre chose qui permettait justement de savoir très précisément, au-delà de cette sculpture, de quelle, à quelle occasion cet arc avait été bâti. C'est quoi? Pardon? Voilà, absolument. Au-dessus, il y a une inscription. Enfin, il y a vraiment une inscription.
Il y avait...
Moi, je vois surtout des trous.
Mais c'était les lettres étaient accrochées.
Voilà, parce que c'était des lettres qui étaient accrochées. Hein. C'est-à-dire, l'inscription n'était pas chac-clac-clac-clac-clac taillée dans la pierre. Vous aviez des lettres en bronze, souvent d'ailleurs en bronze doré, qui étaient fixées sur l'entablement, hein, sur l'attique précisément de l'arc. Alors, quelquefois, ces lettres, d'ailleurs, étaient même, comment dire, enfoncées dans la pierre. C'est-à-dire que la pierre était sculptée à la forme de la lettre et la lettre était emboîtée à l'intérieur. Hein.
Voilà.
En général, c'était en bronze doré. Hein. Voilà.
C'était un soleil levant.
Un soleil levant.
Ah,
Là, je ne peux pas vous dire si c'est le côté... Enfin, en tout cas, l'arc est effectivement axé nord-sud. Hein. Autrement dit, il y a un côté qui donne à l'est, l'autre côté à l'ouest, si ma mémoire est bonne, effectivement. Hein. Puis, puisqu'il y a évidemment deux côtés. Hein. Voilà. Mais l'inscription se retrouve des deux côtés. Et la frise fait le tour de l'arc. Bien, donc ça... Pardon ?
Il a l'air carré.
Alors, en fait, il est quand même plus étroit qu'il n'est large. Hein. Oui, mais il a une petite épaisseur,
ouais.
Effectivement.
Et l'époque ?
Il est du 1er siècle avant Jésus-Christ.
Avant ?
Ouais, fin du 1er siècle avant. Hein. Ça va être autour de, j'ai plus la mémoire précise, mais autour de 25 avant, je crois. Alors, on continue. La porte à Nigra à Trèves. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est, ça aussi ? Voilà, c'est comme pour Autun, c'est la porte de la ville. D'ailleurs, ça s'appelle la Porta Nigra, tout simplement parce qu'elle est un peu noirotte, cette porte, hein, d'où son nom de Porta Nigra. Hein. C'est effectivement la même chose qu'Autun, sauf que c'est un peu plus tardif. Hein, cette porte à Nigra, elle ne date pas du 1er siècle, elle date plutôt du 2e, peut-être même certainement du début 3e. En tout cas, elle est plus tardive. Mais vous voyez qu'elle a la même structure. Hein. Hein, la porte au centre, des tours de chaque côté, sauf que là, à Autun, si vous voulez, on s'était contenté de la partie centrale en pierre. Là, on a fait quelque chose d'encore plus monumental. Là, je vous l'ai dit, hein, une porte, il faut quand même que ça... Ça, dès l'extérieur, hein, ça amène une sorte de prestige à la cité. Hein, voilà, la Porta Nigra de trait.
Il n'y a pas de passage piéton.
Non, il n'y a pas de passage piéton. Hein. Je pense que les piétons devaient partager le passage avec leurs collègues conducteurs de char. Alors, qu'est-ce que c'est que ça?
Rempart. Mais...
Des remparts. Quelle est la caractéristique de
le décor.
Ce morceau de rempart?
Ils sont décorés.
Alors, est-ce qu'il y a des briques?
Exactement. C'est-à-dire que la décoration est faite, en effet, d'alternance de pierres et de briques. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore, d'ailleurs, concernant cette décoration?
Géométrique.
Et au niveau des pierres, par exemple?
Bah, c'est pareil, mais...
Voilà, il y a différents types de pierres. C'est pas que un type de pierre, il y a... quel genre de pierre, d'ailleurs, à votre avis?
Du calcaire.
Il y a un soubassement, quand même.
Il y a un soubassement, un gros soubassement, une grosse pierre calcaire.
Ouais.
Voilà. Et au-dessus, effectivement, on a des lits, hein, soit de briques, soit de pierres de différentes natures, calcaire ou grès, par exemple, ou granit, ce qui donne ces décors que vous voyez là. Hein. C'est habituel, ça?
Non,
c'est pas habituel.
C'est la première fois.
Première fois que vous voyez ça?
Ah oui.
Des remparts décorés.
Des remparts décorés? Pourtant, vous habitez à Châlons. Vous avez déjà regardé les restes des remparts romains de Châlons?
Il n'y a pas de décoration.
Eh bien, si.
Mmh.
Eh bien, bien sûr que si.
Ah bon?
Et donc, on va organiser une petite visite de la ville.
Oui.
Alors, pas derrière la cathédrale. Là où ça se voit vraiment, c'est dans ce qu'on appelle la cour Citroën.
La cour Citroën
en plein centre-ville.
Oui, oui, c'est vrai.
Vous avez une tour, hein, tour dont, qui est largement médiévale et dont la base est antique. Et on voit encore dans la partie basse des lits de briques qui entourent la tour. Hein,
c'est
voilà.
Vrai.
Oui, d'ailleurs, on dit même qu'au Moyen-Âge... Alors, c'est moins décoré que ça, ça l'est quand même. Hein. Et on disait même qu'au Moyen-Âge, à Châlons, ces lits de briques avaient été, dans l'Antiquité romaine, couverts d'un décor doré, si vous voulez. Il y a un peu de tradition légendaire là-dedans. Hein. Mais c'est une chose que l'on trouve très, très souvent hein, dans les villes gallo-romaines, ce genre d'idée, c'est-à-dire des remparts qui sont décorés. Alors, ici, dans cette ville dont vous allez me dire le nom, hein, on a des décors particulièrement remarquables, mais de nombreuses villes avaient ce genre de choses. Où ça se trouve, ça? C'est parmi les remparts antiques les mieux conservés en France. Hein. Parce que ça, en l'occurrence, c'est en France. Je vais vous amener un peu plus loin, plus tard, mais pour l'instant...
C'est dans l'Ouest.
C'est dans l'Ouest, exact. Enfin, dans l'Ouest. C'est relativement dans l'Ouest, oui. Plutôt dans l'Ouest.
Ouest-Sud ?
Si vous n'êtes pas trop loin, oui. Non. Si je vous dis qu'on est fait de bonnes rillettes, vous allez trouver. Le Mans, voilà. Hein, ce sont les remparts antiques du Mans. Hein, voilà.
Les
Au Mans, il y a des remparts antiques extraordinaires. Hein. Ville superbe, le Mans. Hein. Il n'y a pas que la cathédrale. Hein. Il y a des restes antiques superbes. Et voilà une partie de la muraille antique du Mans. C'est magnifique, c'est très beau, très intéressant. Et c'est parmi les remparts, ils sont tardifs, 3e siècle, hein, les antiques les mieux conservés en France. Hein. Bien. Et ça...
La muraille de Chine.
Si c'est pas elle, c'est sa sœur, en tout cas. Hein. En Écosse. En Écosse, c'est vrai que c'est un petit côté whisky. Hein. Voilà, hein, c'est ce qu'on appelle le mur d'Adrien. Alors, ce n'est pas tout à fait en Écosse, c'est au nord de l'Angleterre. Hein. N'allez pas froisser les Écossais. Il est vrai qu'il y a un autre mur, un peu plus au nord, qui là, est effectivement en Écosse. Hein. Mais ça, c'est le mur d'Adrien, celui qui est le plus au sud et qui est au nord de l'Angleterre. Hein. Voilà. Quel était le but du mur d'Adrien ?
Séparer.
Oui. Pardon ?
Délimité.
Voilà, plutôt délimité que séparé. Parce que comme vous le voyez, je ne suis pas un grand sportif, mais je crois que je serais capable de passer par-dessus quand même. Hein, voilà. Donc, et d'ailleurs, ils sont passés par-dessus. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, le mur, ce mur d'Adrien, était plus quelque chose qui symboliquement avait pour but de délimiter la frontière. Comment est-ce qu'on appelle la frontière dans l'Antiquité romaine, d'ailleurs ?
Le limes.
Dans cette partie du monde de l'Empire romain, au sud c'est l'Empire romain, au nord ça ne l'est plus, ben, vous avez quelque chose qui est là pour, j'allais dire, incarner hein, les limites de l'Empire. Alors c'est un mur qui est quand même un mur, hein, mais enfin qui n'est pas très dissuasif, je dirais. Hein. Bien. Donc le mur d'Adrien, qui date donc ben, de l'époque d'Adrien, c'est-à-dire du 12e siècle. Hein. Bien. Alors, on a parlé mur, on a parlé porte, on a parlé rempart. On n'a pas parlé de ça.
Théâtre.
Arène, Colisée. Wow. Oui, oula. Pardon. Amphithéâtre, arène.
Pas arène.
Bon, ça fait beaucoup de noms, ça. Alors, sur lequel on s'arrête ? Parce que j'entends plein de noms, mais quel est le bon mot pour... Amphithéâtre ?
Amphithéâtre.
Ah non. Alors, donc, ce serait un amphithéâtre. Et alors, cet amphithéâtre, si c'est bien un amphithéâtre, il se trouve où ?
Les maisons sont très basses avec sans toit.
Oui, c'est ça.
Ouais. Mais il a trouvé, lui, là-bas. Hein. C'est à El Djem. Hein. Voilà. El Djem. Hein. C'est effectivement en Tunisie. Hein. El Djem ou Djemila, si vous préférez. Hein, la ville antique de Kwikul, précisément. Et donc, vous avez là l'amphithéâtre d'El Djem. Hein. Donc, amphithéâtre, très bien. Mais à quoi ça sert, un amphithéâtre ? Font des spectacles d'animaux, des jeux. Quel genre de jeux ?
Gladiateurs.
Combat de gladiateurs.
Combat naval. Oui.
Course de chars.
Ah non, pas course de chars.
Ah, pas course arènes. De chars.
Non, c'est pas trop petit.
Pas de musique. Alors, course de chars, combat naval,
gladiateur,
non ?
Si, pourquoi pas ?
Bien. Donc finalement, c'est un lieu qui sert pour toutes sortes de représentations spectaculaires, dirons-nous. Voilà. Hein ? Oui, pas, très bien, palais des congrès, voilà. C'est un lieu, j'allais dire, multifonction. Hein ? C'est une salle polyvalente, pourrait-on dire.
Hein ? Bien. Mais construite.
Mais construite. Hein. Bien, donc un amphithéâtre, l'amphithéâtre d'El Djem, qui date du 3e siècle. El Djem, c'est en Tunisie, effectivement. Et que diriez-vous de cela, alors ? Arène ? Alors, c'est quoi la différence entre arène et amphithéâtre ? Ah, des combats. C'est-à-dire que dans l'amphithéâtre, on combat, c'est les gladiateurs qui se combattent. Dans l'arène, c'est plutôt des animaux ?
Oui.
Mais donc il y a deux types de bâtiments différents.
L'arène suppose un sol en sable.
Un sol sable. Ah, l'arène, pardon ?
L'arène, c'est pas la zone qui est au milieu.
Ah, alors finalement, l'arène serait dans l'amphithéâtre.
La zone sableuse.
Bon, alors finalement, c'est quoi ça ? Un amphithéâtre. Donc c'est la même chose qu'avant. D'accord. Et on est où, là ?
Anime ?
Non.
Non ? Oh ben on est quand même dans la ville, là. Donc c'est Nîmes ou c'est pas Nîmes ? C'est pas Nîmes.
Non.
Alors on serait où, si c'est pas Nîmes ?
C'est en France ?
Non. Donc c'est pas nous. Pardon. C'est Vérone, absolument. On est à Vérone. Il y a un très bel amphithéâtre à Vérone, hein, qu'on connaît moins que les amphithéâtres de Nîmes ou d'Arles. Hein, vous avez oublié Arles.
Puis,
on est en ville quasi
intacte. Il y a une partie brique, alors que Vérone a de la brique.
Absolument. Hein, la partie super. Mais voilà, donc c'est Vérone. Hein, voilà, l'amphithéâtre de Vérone. Très, très bel amphithéâtre, moins connu peut-être, encore que la preuve, hein, que d'autres, mais très bel amphithéâtre. Bien. Et ça.
Alors là, une arène.
Une arène ?
Ben oui.
Ah oui, mais les courses, j'aurais dit que c'était de l'amphithéâtre. Alors moi, j'y perds mon latin, là.
Si, hein, parce qu'avec...
Vous avez dit tout à l'heure, il y avait des courses de chevaux dans l'amphithéâtre.
Oui, avec des piliers, on tourne autour des...
Voilà. Alors là, c'est que pour les chevaux. Donc ce serait quoi ? Un hippodrome. Hein. Alors finalement, on fait des courses de chevaux dans l'amphithéâtre ou pas ? Ah non, d'accord. Donc on fait des courses de chevaux dans l'hippodrome. Hein. Et l'amphithéâtre, alors il sert à quoi ? Aux autres jeux. D'accord. Donc l'amphithéâtre, c'est gladiateur, c'est combat d'animaux, c'est des combats navaux, ça s'appelle comment d'ailleurs les combats navals ? Les combats navals, ça s'appelle comment dans l'Antiquité ?
Ah non, mais...
Alors, ce sont des sortes de joutes navales, oui, il y a un nom spécial.
Nomachies.
Les nomachies. Quelquefois, effectivement, dans les amphithéâtres, dans certains amphithéâtres, hein, on pouvait donner des nomachies, c'est-à-dire des combats navals. Hein. Alors que ça, c'est effectivement un hippodrome, mais il est où cet hippodrome ?
En Grèce.
Pas en Grèce.
En Turquie.
Ouais.
Ah oui, j'ai fait.
C'est sans doute l'hippodrome le mieux conservé qui soit.
Oui, oui, oui.
Pas Éphèse. Non, non, non. Mais vous n'êtes pas loin. C'est à Aphrodisias. Hein. Très belle ville turque. Enfin, de Turquie, du moins. Il y a un extraordinaire hippodrome qui est à peu près complet. Les gradins sont les gradins antiques, hein, ce qui n'est pas si fréquent. Hein. Voilà, donc un extraordinaire hippodrome. Alors, effectivement, ça, c'était réservé pour les courses de chars. Et très souvent, il y avait, c'était peut-être le cas ici, même si ça a sans doute disparu aujourd'hui, un élément central, hein, qui est effectivement l'espèce de mur central autour duquel tournaient les chars. Et ça s'appelle comment ?
Le mur.
Ce mur central, oui. Souvent qui était d'ailleurs doté d'éléments décorés, un obélisque, que sais-je. On appelle ça la spina.
Hein. Ah oui.
Au centre, généralement, il y a la spina. Hein. Si vous allez, par exemple, à Istanbul, vous verrez l'emplacement de l'ancien hippodrome, sauf que l'hippodrome n'est plus là, mais encore les obélisques de la spina. Hein. Ceux qui connaissent Istanbul, près de la mosquée bleue et de la mosquée Sainte-Sophie, hein, vous avez une immense place, c'est la mosquée hippodrome. L'hippodrome, il n'y a presque plus rien, mais il y a encore deux des obélisques de la spina, et même un morceau du trépied en bronze de Delphes qui avait été ramené pour orner la spina centrale de l'hippodrome. Voilà. Donc là, on est à Aphrodisias, hein, superbe hippodrome. Beaucoup. Beaucoup. Hein, c'est quelque chose de très, très impressionnant. Un théâtre.
En Libye.
En Libye ? Alors on est où là ? Donc en Libye, devant un théâtre ? Ou en Turquie ?
Non,
moi j'en ai vu
en Syrie. Syrie. Hélas, Syrie. Ouais. Je crains que si c'était en Syrie, ce serait qu'un souvenir. Mais ça existe encore que je ne sais pas. Parce que c'est en Libye.
Oui, c'est en Libye.
C'est en Libye. Et vous savez quel est le lieu où se trouve... Ça s'appelle Sabrata. Sabrata, il y a un théâtre antique extraordinaire qui a été en partie anastylosé. Ça veut dire quoi, d'ailleurs ?
Avec des
anastylosé.
Avec des colonnes.
Alors, il a effectivement des colonnes, mais quand on fait une anastylose, ça veut dire qu'on fait quelque chose. Une anastylose, ça veut dire qu'on reconstruit. Parce que le théâtre que vous avez là, en fait, le mur que vous voyez là était complètement... écroulé. Il a été, par les archéologues italiens, qui vous savez longtemps occupé la Libye, hein, reconstruit au milieu du XXe siècle. Hein, mais de manière assez, assez juste. Hein, voilà. Comment est-ce que vous décririez ce théâtre de Sabrata, qui date du fin deuxième, début troisième siècle plutôt, après Jésus-Christ.
Il est imposant.
Il est semi-circulaire.
Imposant, alors il est effectivement semi-circulaire, tout à fait. Et vous, donc, qu'est-ce que vous diriez d'autre? Il est composé de quoi?
Il y a le mur de Seine.
Alors, il y a la Seine avec le mur de Seine, ok?
L'orchestre.
L'orchestre, les gradins, ouais. Et puis voilà. Très bien. Donc, Sabrata, deuxième, troisième siècle.
Alors, le mur de Seine est plan, on a une impression de courbe.
Alors non, il est plan. Hein. Il est plan.
Mais c'est bizarre.
Alors il est plan, pas tout à fait plan. Vous avez quand même des ressauts. Hein. Vous devinez derrière, notamment ça, des sortes de ressauts dans le mur.
Oui,
hein.
Parce que
mais c'est vrai que les murs de Seine, ils sont faits comment, ces murs de Seine? En général, c'est quoi?
C'est de la pierre.
C'est de la pierre. Donc c'est un mur en pierre. Oui. Mais évidemment, un mur en pierre, c'est un peu sec. Quoi.
Non, mais il faut des passages, ne serait-ce que pour les acteurs.
Alors, il peut y avoir des arcades. Il y a plutôt, ce que vous voyez là, devant le mur, des colonnes, hein, qui, évidemment, permettent de donner une impression de profondeur. Quoi, hein. Ils sont détachés du mur. Alors, il y a toujours trois portes. Tout ça sur plusieurs niveaux. L'intérêt de Sabrata, c'est qu'on a pu restituer une grande partie de l'élévation. C'est un des rares cas hein, où on se rend compte vraiment de ce que ça pouvait, de ce que ça pouvait donner. Hein. Voilà.
Mais c'est à Lyon, ça.
Ouais. C'est à Lyon. Ça, c'est à Lyon. C'est le théâtre romain de Lyon.
Ben oui. Hein.
Donc ça, vous le connaissez. 1er, 2e siècle. Et ça?
Ah, Petra.
Petra?
Non, Éphèse.
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 Alors, c'est quoi Éphèse, ça?
C'était une bibliothèque.
Pardon? Eh bien, vous avez raison. C'est la bibliothèque de Cestius. J'avais mis là en pensant vous mettre une peau de banane, mais c'est raté. C'est effectivement une bibliothèque. C'est-à-dire que ça, c'est l'entrée de quelle bibliothèque? La bibliothèque de Cestius. Hein, voilà. Et c'est intéressant parce que pourquoi est-ce que j'ai mis à cet endroit-là de ce diaporama?
Parce qu'elle a la même...
Ben voilà. Tiens, vous avez là, finalement, une architecture qui est très très proche de ce que l'on trouve sur les murs de scène des théâtres.
Précédent.
Pardon?
Précédent.
Ben, par exemple, du théâtre précédent de Sabrata. Hein. Ouais. Tiens, vous avez un mur hein, sur lequel on plaque des colonnes qui donc donne cette espèce d'impression de relief que je vous disais. Il y a trois portes, il y a des niches, des statues, etc. Donc c'est vraiment le même genre d'organisation, si vous voulez, que les murs de Seine des théâtres. Sauf que là, il n'y a pas de gradin parce que ce n'est pas un théâtre. Donc la bibliothèque de Celsus à Éphèse.
C'est l'extérieur, ça.
Ça, c'est l'extérieur, c'est l'entrée. Hein. C'est l'entrée. La bibliothèque était vraiment derrière, si vous voulez.
Non, théâtre.
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 Un théâtre. Fais-moi quelle est la différence d'un théâtre et amphithéâtre.
Ah ben le,
parce qu'on parle théâtre, on parle
amphithéâtre. C'est pas un recouplé, le théâtre. Voilà. Il y a un mur au fond.
Voilà, donc le théâtre, il est...
En demi-cercle.
En demi-cercle. Et l'amphithéâtre.
Il est
en cercle complet. Voilà. Cercle complet.
Ovale ou ovale.
Voilà, c'est plutôt une sorte d'ovale, mais qui serait ovale au début. Ou si j'ose dire.
Alors, peut-être qu'il en manque beaucoup.
Oui, c'est peut-être démoli.
Ouais. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est ça?
Ça pourrait être un
amphithéâtre.
Amphithéâtre. Donc on penche plutôt vers un amphithéâtre, même si il n'y a qu'une moitié de gradin, si j'ose dire. Hein. Mais peut-être que ça, c'est démoli. C'est ça votre argument.
C'est possible.
Parce que c'est rond.
Eh oui, parce que qu'est-ce qui fait que, en effet, ça plaît plutôt pour un amphithéâtre?
Le val.
Parce que c'est rond, alors. Voilà.
C'est que la reine, elle est ronde. Si c'était un théâtre, elle serait comment?
Demi-circulaire.
Eh bien voilà, vous auriez un demi-cercle et pas un espèce de grand ovale. D'accord? Donc c'est plutôt un amphithéâtre. Hein? Sauf qu'il n'y a pas de gradin.
En bas.
Bon, ça peut être démoli, hein. Toutes ces vieilleries, c'est largement démoli, hein, quand même. Hein? C'est où ça? Oh ben vous connaissez Éphèse, etc. Vous connaissez ça, quand même. Vous connaissez Éphèse, vous connaissez Sabrata, vous ne connaissez pas ça?
Non.
C'est énorme en plus. Vous avez vu quelle taille ça? C'est en France, à côté de chez nous, ça. Ah. Vous ne connaissez pas ça? Bon. C'est pas Autun.
Non.
Ah non, Autun, là, son amphithéâtre, il n'en reste quasiment plus rien. quasiment pas dans le Doubs non plus. Je pense à, vous pensez à Mandeur, hein, ouais. Non, alors c'est moins monumental que ça. Là, c'est énorme. Hein. Quand vous passez là, vous voyez le chemin. Hein. C'est vraiment colossal. Hein. Pardon ? Oui. Mais ça s'appelle comment ? Ah. Vous y fûtes ? Oh, moins de 20 000 habitants, à mon avis. 20 000 habitants, ce serait plus grand qu'Autun. C'est beaucoup plus petit. Hein.
Saint-Dié.
Non. C'est une ville qui est petite. Pourtant, son nom dit l'inverse.
Et ça commence par quelle lettre ?
G.
Elle s'appelle Grand. Ça, c'est le site de Grand. Voilà. Et de fait, Grand, ce monument, on l'est. C'est dans les Vosges.
Hein.
Dans les Vosges. Hein. C'est à côté. C'est un site extraordinaire. Si vous ne connaissez pas ça, vous y pensez ce week-end. Attention. Hein. Il n'y a pas que Eiffel dans la ville. Hein. Il y a ça aussi. Hein. C'est extraordinaire, ça. Extraordinaire. Hein. En plus, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a une basilique avec une mosaïque inouïe. Enfin, c'est incroyable, Grand. Hein. Il faut absolument aller en Grand. Pas très loin d'Épinal.
Hein.
Vous avez pour ce monument extraordinaire, hein, un peu hésité en disant mais c'est un théâtre, c'est un amphithéâtre. Vous avez raison, dit oui, mais attendez, l'arène elle est complète, c'est pas un mystère, donc c'est plutôt un amphithéâtre, ce sera un théâtre, ce sera un mystère, etc. Vous aviez en fait assez raison d'hésiter parce que ce lieu, c'est ce qu'on appelle un théâtre-amphithéâtre. C'est ni complètement un théâtre, ni complètement un amphithéâtre, c'est et un théâtre et un amphithéâtre. On appelle ça un théâtre-amphithéâtre, hein, dans lequel on ne fait pas de musique. Enfin, si on peut en faire parfois, parce que je vois les spectacles qui sont donnés, hein,
voilà. On a profité de la cavité naturelle ou
pardon
on a profité du cavité naturelle.
Oui, je trouve que c'est un peu dans une sorte de vallon et qu'on a profité du vallon pour installer le théâtre amphithéâtre. À votre avis, quel est le rôle, quelle est la fonction de ce théâtre amphithéâtre ou d'autres théâtres amphithéâtres qu'on trouve très souvent en Gaule romaine, sous nos climats à nous, à part dans le sud de la France, à Arles, Nîmes, on en a parlé, on trouve plutôt des théâtres amphithéâtres. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ces théâtres amphithéâtres ?
Il y a plus de possibilités de spectacle.
Mais encore, oui.
Oui, puis
ça fait ça le polyvalent.
Voilà. Alors, pour le coup, c'est polyvalent. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut y donner des pièces de théâtre, ouais, mais on peut également y donner des jeux plus, enfin, des jeux spectaculaires qu'on aurait donné autrement dans un amphithéâtre. Si on y donne du théâtre, eh ben, on construit une sorte de mur de scène, si vous voulez, ici. Si on y donne des jeux type combat avec des animaux, eh ben on peut ici bricoler des gradins, si vous voulez, ça nous donne un amphithéâtre.
Ils ont disparu, mais ou pas disparu, c'était des gradins mobiles alors.
Voilà, c'est ça, des sortes de gradins mobiles que l'on pouvait effectivement installer. Ce sont des théâtres amphithéâtres. On en trouvait beaucoup dans nos territoires, hein, quelquefois beaucoup plus petits. Vous êtes au courant, par exemple, qu'à Autun, récemment, on a retrouvé un deuxième. Il y a le théâtre que vous connaissez, Autun. Hein. Il y avait à côté du théâtre l'amphithéâtre, le vrai, le grand, construit par Auguste, etc., dont il reste presque plus rien. Et on a trouvé à l'extérieur de la ville, près du temple de Janus, un autre théâtre amphithéâtre, justement, qui est l'un et l'autre. Et qui répondait un peu au même genre de positionnement que ça, c'est-à-dire un lieu qui peut être théâtre et amphithéâtre selon les nécessités.
D'accord. Et ça servait à quoi, ces trous qu'on voit,
cette... Il y a toujours de quoi... parce que ça, ce sont les vomitoria, c'est-à-dire ce qui permet d'aller dans l'arène, hein, ou bien de desservir les gradins. Hein. Il y a d'autres vomitoria ailleurs. Hein. Alors, vous avez de chaque côté des salles qui peuvent servir à plein de choses. Hein. C'est pour stocker du matériel. Ça peut être également pour faire attendre un animal ou des acteurs, que sais-je encore. Hein. Ça a mille fonctions. Hein. Voilà. Le théâtre amphithéâtre de Grand. Hein. Très, très beau site. Étonnant. Un des théâtres romains les mieux conservés. Les mieux conservés, parce que lui, on ne l'a pas anastylosé. Il a toujours été comme ça. En plus, ses gradins sont antiques. Alors qu'à Lyon, par exemple, hein, les gradins sur Lyon, ça ont été complètement construits, hein, comme à Autun, d'ailleurs, dans le théâtre.
Là, ce que vous avez, c'est antique.
Ça, c'est extraordinaire.
Ça paraît un peu montagneux.
C'est en Turquie, non ? C'est en Turquie.
Oui, c'est dans le sud de Turquie.
C'est pas aphrodisias. C'est un spendos. À Spendos, il y a un très beau théâtre que voilà, hein, qui date du IIe siècle. Hein. Alors là, vous voyez, c'est toujours pareil. Hein. Vous avez la cavea, hein, l'orchestra, le mur de scène. Sauf que là, qu'est-ce qui s'est passé avec le mur de scène ?
Il a perdu
les colonnes.
Voilà, il a perdu ses colonnes. Tiens, vous devez imaginer qu'à l'origine, vous voyez d'ailleurs encore les entablements qui étaient, entre guillemets, soutenus par les colonnes. Bah, les colonnes, elles sont parties. Hein. Il reste plus que le mur de Seine, un peu bébête, si j'ose dire. Les colonnes ont disparu. C'est la seule chose vraiment importante qui manque, là. Hein. Vous voyez aussi dans la partie supérieure des sortes d'éléments verticaux qui, à votre avis, pouvaient servir à quoi ?
À tendre une toile.
Voilà. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que ces bâtiments-là pouvaient permettre d'être... Enfin, pouvaient être couverts temporairement hein, par des espèces de grands vélums, des grandes toiles, hein, qui étaient évidemment très nécessaires, notamment où il faisait très chaud, ce qui peut être en Turquie, bien sûr. Hein. Et vous avez donc sur le mur de scène, en haut, mais également tout autour de la cavea, du théâtre, des poteaux, si vous voulez, vous en aviez, au moins, qui permettaient de tendre une sorte de grand vélum. Hein. Voilà. Ok.
Oh.
Un petit théâtre.
C'est en Turquie,
ça. En Turquie encore. Donc un petit théâtre. Aphrodisias, absolument. Là, on a vu quoi tout à l'heure ?
On a vu
l'hippodrome. Donc un petit théâtre.
C'est un odéon.
Mais c'est quoi un odéon ?
C'est la musique.
Voilà. C'est donc un odéon, autrement dit, un théâtre spécialement pour la musique. Autrement dit, ce n'est pas un théâtre. C'est un odéon. L'odéon, c'est un théâtre, mais pour la musique.
Il y avait une construction différente pour cela, pour des histoires de sons.
C'est plus petit, sauf qu'il y en a quand même d'assez grands. À Lyon, comme vous le savez, vous avez côte à côte le théâtre et l'Odéon. Hein. Là, le Théon d'Aphrodisias est un mini petit Odéon, magnifique d'ailleurs, toujours envahi par l'eau. Je me rappelle d'y avoir vu une tortue, moi, ici, marine, enfin, d'eau, pas marine, d'eau. Hein. Voilà, c'est tout petit, c'est très beau. À Lyon, c'est plus grand, mais c'est vrai qu'en général, les odéons 1 sont plus petits. Hein, la musique demande, je veux dire, un peu moins d'espace. Il y avait certainement un certain nombre d'éléments acoustiques hein, qui étaient organisés, mais la structure est la même. Hein. Vous avez toujours la cavea, l'orchestra, la scène et le mur de scène. Et vous reconnaissez exactement la même chose. Hein, les trois portes, les sortes de grands socles sur lesquels se dressaient les colonnes. Alors, tout ça a été en partie rasé. Mais enfin, c'est exactement la même structure, sauf que c'est plus petit, que c'est réservé à la musique. Finalement, si on voulait résumer ces lieux pour les spectacles de l'Antiquité romaine, qu'est-ce qu'on dirait qu'il y a ? Allez-y. L'Odéon, donc qui est pour la musique, le théâtre pour le théâtre, pour les pièces de théâtre, hein.
L'amphithéâtre,
pour les jeux,
et pour les combats d'animaux.
Ah, pour les jeux de cirque. Ah ben alors finalement, le cirque c'est quoi ? Parce qu'on n'a pas parlé de cirque pour l'instant. Le cirque c'est un amphithéâtre, c'est une arène, mais une arène on a dit que c'était ce qu'il y avait au centre de l'amphithéâtre. Oula. Ouais. Alors finalement, est-ce qu'on parlait des jeux du cirque ? C'est quoi les jeux du cirque ? Alors finalement, un amphithéâtre, c'est pas un amphithéâtre, c'est un cirque ?
Ah non.
Ah.
Mais les gladiateurs, tout ça, on appelle pas ça des jeux du cirque.
Les jeux du cirque, c'est au Colisée ? Donc les jeux du cirque, c'est au Colisée. Un cirque, c'est un amphithéâtre. C'est la même chose.
Non, on n'appelle pas ça cirque, mais les jeux qui avaient lieu, c'était les jeux du cirque.
Il les appelait ou on les appelle ?
On les appelle.
Plutôt. Hein, voilà. Donc, si on résume, il y a les odéons qui sont pour la musique, il y a les théâtres pour les pièces de théâtre, il y a les amphithéâtres pour ce qu'on appelle, mais on va y laisser des guillemets, on comprendra peut-être mieux pourquoi tout à l'heure, les jeux du cirque. Et puis il y a quoi encore ? L'hippodrome pour les courses de chasse.
Et l'hélénomachie.
Bien. Et il y a en plus, et ça c'est une singularité très gallo-romaine, les théâtres, amphithéâtres, qui ont effectivement les deux fonctions. Vous rappeliez effectivement que dans les amphithéâtres, il pouvait y avoir au-delà des combats de gladiateurs ou d'hommes contre des animaux, il pouvait y avoir parfois, dans certains amphithéâtres équipés pour, hein, des hélénomachies. Hein. Bien. Et ça ?
Bizarre.
Bizarre.
Ah oui. Oh, c'est ensablé ?
C'est ensablé.
Bah oui, parce que là, on voit l'eau des couleurs.
C'est quoi ce bâtiment ?
C'est des bains.
Des bains. Mais comment est-ce qu'on appelle les bains ?
Des
thermes. Des thermes. Oui, qu'est-ce qu'on voit là, des thermes précisément ? Voilà, les coupoles. Hein. Vous connaissez beaucoup de termes romains que leur coupole ?
Ah non. Enfin, il y a l'intérieur d'une église de Rome qui est... Enfin, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs.
Oui, est... mais il y a effectivement quelques cas parce que remployés notamment en église, oui. Là, vous avez une idée de l'endroit où on est ? C'est fait d'ailleurs en quoi, ces dômes ? En pierre, en brique ? Ni en pierre, ni en brique.
Non,
en terre. Pas en terre. En. C'est du béton. C'est du béton. Alors, du béton romain, hein, sûr. Hein, c'est pour ça que ça entend des blocos, d'ailleurs. Hein. On a l'impression d'avoir des blocos de la ligne Maginot. Hein.
Non.
C'est du béton romain, oui, absolument.
Ouais. Et je crois qu'on c'est
extrêmement. Toujours... Oui, le béton romain est un type de béton d'une qualité extraordinaire, hein, dont on ne sait plus très très bien quand même. Vous savez qu'on a beaucoup perdu, hein, dans le domaine de la fabrication des enduits et des bétons. Je ne sais plus faire un enduit à la chaux aujourd'hui. C'est un drame quand il faut faire un enduit à la chaux. Les entrepreneurs ne savent plus le faire aujourd'hui. C'était terrible ça. Hein. Bon, eh bien, c'est pareil pour le béton romain. On ne sait plus trop comment faire du béton romain. En tout cas, voilà effectivement des termes romains dont les superstructures encore conservées. Hein. Ce que vous avez là après, presque 2000 ans quand même. Hein. Et il y a encore donc les voûtes en béton. C'est rarissime. Ça se situe en Libye. J'espère que c'est toujours debout, c'est pas très sûr. Dans un lieu qui s'appelle Leptis Magna. Hein. Leptis Magna est une ville extraordinaire de Libye, antique, hein, où il y a ces termes qui sont complètement plus que l'eau et les robinets pour faire couler. Hein. Il y a tout. Ils ont été ensablés. Donc, ils sont toujours là. C'est inouï. Hein. Leptis Magna. Leptis Magna, c'est une ville de Libye. C'est là dont était originaire Septime Sévère. Donc, Septime Sévère avait fait faire à Leptis Magna des travaux extravagants, d'où le fait qu'il y a une cité inouïe. Quoi.
C'est l'intérieur ?
Ça pourrait. Oui. Eh oui. C'est à Paris. Vous êtes à Paris. Les thermes, qui se trouvent où ?
À
Cluny. Parce que ce fameux musée de Cluny à Paris, dont on parle tant quand on parle de Moyen-Âge, hein, le musée de Cluny à Paris est en partie installé dans des thermes antiques. Hein. C'est un exemple, hein, vous citiez tout à l'heure à Rome des exemples de thermes qui ont été convertis en églises et qui ont gardé route. Ben, à Paris, on y pense rarement finalement. Il y a encore les thermes Lutèce qui sont en grande partie conservés avec les voûtes encore, hein, et qui datent du 1er siècle. Voilà le frigidarium des thermes de Cluny. C'est un exemple de terme très bien conservé jusqu'à la voûte. Voilà. Alors, on a vu les édifices de spectacle et les édifices de loisirs. Passons à des choses plus sérieuses.
Nîmes.
La maison carrée.
Mais est-ce qu'elle est carrée, en fait ?
Eh ben non. D'abord, elle n'est pas carrée. Et puis, c'est pas la maison carrée de Nîmes. Alors, ça lui ressemble. Ça, ouais. Ah, mais j'aime bien faire des petites choses trappes, vous le savez. C'est de bonne guerre. Ça lui ressemble.
Elle a été raccommodée.
Ah oui.
Oh, bah oui, un édifice de cette période a droit à des petits raccommodages. Alors, c'est quoi ? D'abord, c'est quoi, avant de savoir où c'est ? Un temple. Hein, un temple. Une petite idée de date, peut-être ?
Colonne corinthienne.
Colonne corinthienne.
Donc, pas trop tôt.
Bah, les colonnes corinthiennes, je vous rappelle quand même qu'on en a parlé dès l'Antiquité grecque. Hein. Hein, 4e siècle avant Jésus-Christ, et vous rappelez le premier chapitre corinthien a passé, on en a parlé la fois dernière, c'est 4e siècle avant notre ère. Hein. Donc la colonne corinthienne, l'époque romaine, on commence à savoir en faire. Hein. D'accord ? Et alors ça se trouve où ce temple ?
C'est pas à Vienne ?
Eh ben oui, c'est à Vienne. Et il s'appelle comment ce temple-là ? Vienne à côté de chez nous, là, près de Lyon.
En
Isère. Et alors, ce temple-là, c'est quel temple ?
C'est pas la maison de Livy.
Le temple d'Auguste et de Livy. Hein ? C'était donc un temple qui était dédié à qui ?
À Auguste.
Et voilà, à l'empereur et à son épouse, à l'empereur Auguste. Ça vous dit quoi, ça ?
Auguste.
Parce que habituellement, je sais pas, quand on a des temples, on dit temple de Jupiter, temple de Diane, je sais pas, moi.
Ah oui, mais c'est l'empereur divinisé. Là.
Et voilà, l'empereur est divinisé. Hein. C'est pas le cas chez les Grecs. Hein. Il y avait pas de, je ne vous ai pas montré de temple de Périclès. Hein. Voilà. Chez les Romains, l'empereur est divinisé. Hein. Donc, vous avez ici construit, à quelle époque donc, puisque c'est tombe d'Auguste et de Livy ? Premier siècle. Hein. Auguste, c'est 23 avant, 14 après. Hein. C'est un temple datant du premier siècle. Voilà. Et qui ressemble effectivement beaucoup à la maison carrée. Oui. Maison carrée qui est grosso modo la même chose. Pas tout à fait, c'est-à-dire dans la maison carrée, l'élément qu'il y a là, ça s'appelle comment, d'ailleurs, cette chose qui est à l'intérieur du temple ?
Le naos.
Le naos. En latin, il y a un mot, il y a l'équivalent du mot naos en latin. Vous le connaissez ? La cella.
Hein. Ah oui.
La cella. Hein. Voilà. Eh bien, à Nîmes, les colonnes... sont jusqu'au portique avant, sont engagés, si vous voulez. C'est-à-dire que la cella fait toute la largeur du podium. C'est ce que je veux dire. Là, les colonnes, vous voyez, sont des colonnes dégagées. Hein. Il y a un portique sur trois des côtés, alors qu'à Nîmes, il n'y a que le portique sur le devant. D'accord ? C'est ça qui permet de différencier l'un de l'autre. Hein. Donc, le beau temple d'Auguste et de Livy viennent, il y a plein d'éléments antiques très passionnants. Ça vous inspire ? Alors, quel genre de bâtiment est-ce ?
Un temple.
On est où ? Où est-ce qu'il est ? Il est au Liban. Baalbek. C'est le temple de Bacchus, Dionysos, en Orient, on peut parler grec, de Baalbek. Deuxième, troisième siècle, un temple monumental. C'est énorme, il y en a plusieurs, d'ailleurs. Quel ordre ?
Il semble que ce soit corinthien.
Oui, c'est corinthien.
Mais cependant, il n'y a pas de cannelure.
Oui, c'est un ordre corinthien un peu, comment dire, exotique. Hein. Effectivement, les colonnes ne sont pas cannelées, ce qui est pas très agréable.
On a même l'impression qu'elles sont bombées.
Ah oui, ben ça, on l'avait vu la dernière fois. Hein. Les colonnes dans les temples sont forcément un peu en forme de bouteille. Hein. Et ça, une tour
pour les vents.
Une tour pour les vents ?
Oui, parce que...
Vous pensez à la tour des vents d'Athènes, peut-être ? Non ? Ce qu'on appelle la tour des vents Athènes, qui est en fait une clepsydre, une horloge. C'est pas ça. Donc qu'est-ce que c'est que ce monument rond, enfin cylindrique ?
Alors ça pourrait être un tombeau.
Un réservoir, un tombeau, un grenier.
Ah,
ben bah, voilà qui nous ouvre des perspectives.
Un pigeonnier.
Il y a des trous. Pardon ? Pas assez. Ouais, c'est un petit peu juste peut-être. Encore qu'il y a souvent plus de trous dedans qu'il n'y en a pour rentrer dedans. Hein. Donc, les options, c'est soit un pigeonnier... Soit un silo, c'est ça ? J'ai entendu ça, non ? Silo, c'est pas mal, silo. Un réservoir, j'ai entendu un réservoir. Hein ? Soit, qu'est-ce que vous avez dit encore ? Une tour, genre rempart.
Un tombeau, j'ai dit.
Tombeau. Je vous sens moyennement inspiré par ce cylindre-là. Hein ?
Il doit y avoir du monde dedans, ça.
Il doit y avoir du monde
dedans. Ah non, mais ça fait rien.
Eh bien, ça n'est rien de tout ça. Car ce que vous avez là est aussi un temple. Eh oui, c'est un temple. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un autre temple que vous connaissez bien ? Très bien. Très, très bien. Très, 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 très bien.
Est-ce qu'il est à Chalon ?
Pas loin.
Out.
Out.
Le temple de Janus.
Le temple de Janus.
Oui, mais il n'est pas rond.
Ah, il n'est pas rond. C'est la seule différence. Ah ben... C'est-à-dire que là, vous avez un temple cylindrique. À Autun, vous avez l'équivalent carré. Sauf que ce temple-là et le temple d'Autun, c'est donc un cylindre dans un cas, un carré, enfin un carré, un bâtiment de plan carré, une tour de plan carré de l'autre. Hein. Mais il y avait autre chose. Quoi ? Que cette élévation montre bien. Pas de loup. Pardon ?
Des grains ?
Des grains ? Non. Vous avez des trous, là. Alors, ils ne sont pas des trous pour faire rentrer les pigeons, mais il y a des trous quand même. Pas vraiment d'aération.
Pour surveiller les nuits ?
Non plus, parce que c'est un temple. Donc, les nuits, dans les temples, il n'y en a pas.
Pour mettre un auvent ?
Voilà. Voilà, c'est pour mettre des poutres. C'est-à-dire qu'à Autun, comme ici, vous aviez concentrique à cet élément en tour centrale, alors une tour circulaire dans un cas, carré de l'autre, hein. Vous avez une sorte de portique, si vous voulez, tout autour, mais en bois. Donc il a disparu. Ça se situe où, ça ? Vous avez une idée ?
Non.
Ça se situe à Périgueux. C'est ce qu'on appelle la tour de Vézone à Périgueux. Hein. Premier siècle. Bien. Eh bien, à l'origine, c'était comme ça. Vous avez là la reconstitution. Alors, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est là. C'est-à-dire que vous aviez la tour, et puis tout autour de la tour, vous aviez un portique, et les poutres, si vous voulez, supportant les toitures du portique, se calaient dans les trous que vous voyez là. Et à Autun, c'était pareil. Vous aviez au centre une espèce de tour en pierre que vous connaissez, avec un toit, hein, et tout autour, plus bas, un petit portique carré qui faisait le tour du temple. D'accord ?
Mais c'était un temple à qui ? Pour qui ?
Alors, on pense que c'était là, à la divinité Vézone, parce qu'on a retrouvé une inscription qui parle de Vézone, qui est une divinité locale. Hein. À Autun, on l'appelle temple de Janus, parce qu'au XVIe siècle, à l'époque où on voulait, n'est-ce pas, que Autun soit une nouvelle Rome, on s'est dit temple de Janus, ça fera chic. Hein. En fait, c'est une conjecture tout à fait fausse. Hein. C'était sûrement pas le temple de Janus. On l'appelle comme ça, parce que Janus, encore une fois, est un dieu très gréco-romain, mais qui, a priori, n'a jamais été vénéré à Autun. Hein. Encore une fois, c'est au XVIe siècle que, pour donner à Autun une allure très romaine, on lui a donné le nom de temple de Janus.
Et à l'intérieur ?
Alors, à l'intérieur, c'est également un lieu circulaire. Il pouvait y avoir un certain nombre de niches, par exemple, pour mettre des statues. On pense qu'à Autun, il y avait peut-être plusieurs divinités vénérées.
Et on peut entrer dans celui-là ?
On pouvait entrer, bien sûr. Oui. Il y avait sur un des côtés, vous le voyez, un portique, hein, qui permettait d'entrer à l'intérieur du temple.
Oui, et actuellement ?
Actuellement, je ne peux pas vous dire. Moi, j'ai vu le temple de Vézone il y a très longtemps. C'est un peu comme à Autun. Hein. C'est un peu, je sens que c'est un peu détruit. Je ne sais plus si on peut rentrer. Ah oui. Je ne peux plus vous dire. Bon, enfin, en tout cas, c'est assez ouvert. Hein. Mais ça n'était pas assez ouvert autrefois. Hein. D'accord ? Alors, ça, c'est un type de temple qu'on trouve spécifiquement en Gaule romaine. Hein. Ce genre de choses-là, vous ne trouverez pas ça tellement dans d'autres secteurs. Hein. Tout simplement parce que c'est la construction, la traduction en pierre de temples en bois construits à l'époque gauloise. Hein. À l'époque gauloise, on faisait beaucoup de ces temples-là, une tour et puis un portique autour. Là, à l'époque romaine, on a fait la même chose, mais en plus grand et en plus dur, c'est-à-dire en pierre. D'accord ? Un aqueduc, hein. On n'a pas parlé encore des aqueducs, hein. Voilà. Bon, ben, l'aqueduc, c'est à quoi ça sert, hein. C'est pour amener l'eau, ça c'est pas bien méchant. Alors celui-là est où ?
Non, 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 c'est pas le pont du Gard.
Espagne, Tarragone, hein. Voilà. Il y a un très très beau, un très bel aqueduc à Tarragone. D'ailleurs, il y en a un autre. Vous connaissez celui-là ? Pas mal non plus, hein. Espagne toujours, hein. C'est celui de Ségovie. Ah oui, il est très grand, très beau, impressionnant. Hein. Bon, puis il y a effectivement celui du pont du Gard, hein, vous connaissez tous, que voilà. Bien. Et ça, c'est à Saint-Rémy-de-Provence, oui. Hein, ce qu'on appelle Glanum, à la sortie de Saint-Rémy ou à l'entrée, ça dépend. Et c'est quoi ?
Un temple.
Oui.
Un mausolée.
Enfin, c'est...
Alors, c'est un temple ou c'est un mausolée ?
Plutôt un mémorial.
Un mémorial ?
Enfin, le mot n'est pas forcément adapté.
Mais quel genre de mémorial ? Parce que tout à l'heure, on a vu des mémoriaux, qui étaient des arcs, hein, des arcs de triomphe. Hein. Mm-hmm. Alors là, c'est un mémorial, mais en forme de tour, c'est ça ?
Il
n'y
a pas une statue.
Si. Dedans, regarde.
Il y en a même deux. On voit deux statues.
Puis il y a un bas-relief quand même.
Oui, il y en a un là. Puis il y en a un là, grand. Hein, en bas aussi. Hein. Alors, quelle était la fonction de ce bâtiment ?
Commémorer une bataille.
Commémorer une bataille ? Donc, une sorte d'arc de triomphe, un peu plus concentré, un peu plus. Oh.
Juste à côté, il y en a un.
Il y en a un. Parce que quand on va à Glanum, vous avez côte à côte, effectivement, un arc de triomphe et ça.
On les appelle les antiques.
Hein. Oui, mais...
Alors, c'est quoi ce truc ?
C'est pas fait pour une famille.
Pardon ?
C'est pas fait pour une famille.
Un mausolée.
Oui. Un mausolée, c'est quoi un mausolée ?
Un tombeau.
Un tombeau ? Ah, est-ce qu'un tombeau, un mausolée, c'est pareil ?
Non.
Quelle est la différence ?
Il n'y a pas de corps.
Voilà. À l'intérieur d'un mausolée, il n'y a pas de corps, alors que dans un tombeau, il y a un corps. Hein, voilà. Donc ça, ce serait plutôt quoi ?
Un mausolée.
C'est-à-dire, effectivement, une sorte de monument funéraire commémoratif, mais pas de corps. Hein, voilà. Ben, vous avez raison. C'est ce qu'on appelle le mausolée des Jules. Hein. Caius et Julius César sont les petits-fils d'Auguste. Hein. À qui on a donc, après leur mort, élevé ce monument à côté de l'Arc de Triomphe de Glanum. Hein. Date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Effectivement, dans la partie inférieure, il y a des scènes de bataille qui célèbrent justement certaines de leurs victoires. Et dans la petite rotonde au-dessus, il y a effectivement les statues des deux Jules, hein, Caius et Julius, César. Hein. Et ça ? Un autre mausolée ? Ça ressemble ? Sauf que ça, manque de bol, c'est un tombeau. Bon, fallait bien que je vous cherche un peu. Hein, bah, ça, c'est un tombeau, c'est-à-dire que c'est vrai. C'est pas un mausolée, il y a du monde à l'intérieur et dessous. Hein. Ça, c'est... Et vous avez une idée à quel endroit on trouve ce genre de tombeau comme ça, très verticaux, qui sont des espèces de grands piliers décorés. Sur lequel, d'ailleurs, il y a quoi ? Par exemple, là, qu'est-ce que vous voyez ici ou là ?
Des statues.
Ouais, on voit des scènes. Ce sont des reliefs. Hein. Mm-hmm.
Il y a les tombeaux autour de Syrie, mais c'est pas comme ça.
Pardon ? Ah oui, ça fait penser au tombeau de Palmyre. Hein, ouais. Mais alors ça, c'est autre chose, oui.
Beaucoup plus
grands. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit là, par exemple ?
Un couple.
Ben voilà, un couple, et c'est, ce couple, c'est qui ? Ben, c'est les gens qui sont dedans, quoi. Hein. Voilà. Et là, vous voyez quoi ?
La famille ?
Ça pourrait.
On voit mal.
C'est pareil. On voit mal, hein. Mais ils sont en train de faire des choses.
Ah bon ?
Voilà, ça représente leur métier. Hein. Parce que ce qui était très important, alors ce que vous avez là, vous savez où c'est conservé ça ? C'est en Allemagne, à Eagle. Hein, Eagle. Près de Mayence, si vous voulez. Hein. Et on a retrouvé dans ce secteur-là, alors celui-là est encore en place conservé, mais on en connaît beaucoup de fragments. Par exemple, au musée de Trèves, hein, il y a des choses venant de Neumagen, hein, qui viennent de monuments du même genre. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le long des voies qui menaient dans les cités, les Romains construisaient des tombeaux qui étaient autant d'affichages publicitaires. Vous arriviez dans une ville, vous voyez que les, je sais pas quoi, ils étaient drapiers, parce que sur leur tombeau, il y avait des scènes de draperie. Vous voyez que les bidules, ils étaient dans le domaine du métal, parce qu'on voyait les scènes. Voilà, les tombeaux étaient là. À l'extérieur de la ville, toujours, jamais à l'intérieur, hein, était là à la fois pour servir de maison des morts, mais aussi pour signaler ce qui se passe à l'intérieur de la cité. Hein. Ce sont des affichages publicitaires, quelque part. Hein. Voilà le fameux pilier de Hegel. Et puis ça...
Il y a un temple.
Parce que, vous l'aurez remarqué, on a, à travers ces diapositives aujourd'hui, parlé de tout ce qui constitue une ville antique romaine. Tous les principaux bâtiments qui constituent une ville antique romaine. Les portes, les remparts, les éléments extérieurs, les tombeaux, les aqueducs. On a parlé des éléments intérieurs. On a parlé, par exemple, aussi bien des thermes que de l'amphithéâtre, du théâtre, de l'Odéon, du pont, que sais-je encore. Ça, on n'en a pas parlé encore. C'est un Pompéi, effectivement. Et c'est quoi ? L'agora ? Le forum. Voilà. Agora, c'est la même chose. Mais agora, c'est le mot grec. Forum, c'est le mot romain, bien sûr. On est donc là devant le forum de Pompéi. Tiens, je vais vous montrer un plan devant de Pompéi. On va essayer de voir ce que l'on peut essayer de retrouver comme fonction des différents éléments du forum. Voilà le même forum. Vous le voyez là, en vue aérienne. Et voilà son plan. Qu'est-ce qu'on y voit ? Ça nous permet de comprendre comment fonctionne un forum. À quoi ça sert ? Qu'est-ce que c'est qu'un forum ? Qu'est-ce que vous y voyez ? Ça, c'est la photo, ça, c'est le plan, le dessin. Alors, il y a d'abord un grand rectangle. Ce rectangle, c'est une place. Bon. Qu'est-ce qui se passe autour ? D'une certaine manière. Oui, mais où ? Alors, il y a des lettres. Peut-être que vous pouvez vous aider des lettres. D'abord, je ne sais pas, commençons par ça. C'est quoi, ça ? Ah, tiens. Un temple, ouais. C'est sur un forum, il y a quand même des éléments religieux. Très bien. Je passe ça. Oh.
Il y a des tas de petites alvéoles.
Tas de petites alvéoles.
Ça pourrait être des marchands.
Ça pourrait être un truc de marchands.
De marchands de...
Oui, une sorte de halle. Une sorte de halle, très bien. Continuons ça, par exemple.
Ça fait encore un peu temple.
Ça fait un peu temple, ça fait un peu penser à ça. Ok. Oui. Ça.
Alors, ce serait plutôt le lieu de réunion des autorités du pays, je trouve. Le mot. Oui, basilique.
Ah, la basilique. Donc, on aurait peut-être là une basilique. Et ça, alors ?
Où ça ?
Où ça, la basilique ? La basilique, c'est quoi ? Bâtiment
politique.
Oui. Politique. Que politique ?
Non,
religieux. Encore une salle polyvalente. Dites-donc, il y en a des salles polyvalentes. Religieux, politique, et puis quoi encore ? On y faisait peut-être des spectacles, donc on y est.
Ah, c'est difficile.
Une sorte d'amphithéâtre rectangulaire.
Non, mais les colonnes sont gênantes.
Salle de réception ? Salle de réception ?
Ça a l'air d'être une place sur la photo.
Ah, ici, vous voulez dire ça ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus le...
Des colonnes ?
Il n'y a plus le plafond.
Il y a des colonnes, là, non ?
Voilà, oui, ça, ce que vous voyez, c'est des colonnes qui, donc, soutenaient un plafond.
Oui, oui, parce que c'est
un exposition. Oui. Il y a une fonction que vous oubliez, quand même. Importante.
La justice ?
La justice ? Eh oui. La basilique, elle sert à ça aussi. La basilique, c'est peut-être même d'abord le lieu de la justice. Alors c'est aussi un lieu qui peut avoir une dimension politique, il y a une dimension polyvalente, c'est vrai, dans la basilique, mais c'est quand même d'abord le lieu de la justice, la basilique. Et puis alors les petites salles là, vous m'en feriez quoi ? Donc il y avait plein d'idées.
C'est pas les termes, sûrement.
Ah oui, ça pourrait, mais c'est pas. C'est vrai que, je commence à vous le dire, il y a des petites pièces qui suivent. Sauf que vraiment, il faut ressortir à chaque fois, vous voyez.
Des petits commerces.
Oui, des petits restos sympas. Des petites terrasses. Ouais. Non, mais c'est pas mal. Alors, vous avez raison. On est là. C'est intéressant parce que le forum de Pompéi, comme d'autres forums, montre bien vraiment quelles sont les fonctions du forum. D'abord, c'est un lieu où on se rencontre, c'est une place, on y palabre, etc. C'est vraiment l'agora, effectivement, le forum. Il y a une fonction religieuse, il y a même un autre temple ici. Voilà. Donc la dimension religieuse, elle est importante. Il y a des fonctions commerciales. Vous avez bien vu que ça, c'était sans doute une sorte de halle. Mais ça aussi, sans doute, vraisemblablement. En fait, ce bâtiment G, il pose des tas de problèmes encore. On ne sait pas très bien ce que c'est. Mais la fonction la plus vraisemblable est sans doute une fonction également liée à des questions de commerce. Hein. Par contre, là, vous avez effectivement la basilique, avec notamment dans le fond, à l'endroit où se place le juge. Hein, les petites salles que vous avez là sont des salles liées au fonctionnement politique de la ville. Hein, je crois que la curie, en particulier, c'est ce qu'il y a en elle. Hein, voilà. Donc vraiment, on voit bien que le forum est un lieu comme ça où il y a un précipité de beaucoup d'activités publiques, en fait, de la cité.
Et le bâtiment E.
Le bâtiment E, oui, je crois que c'est également un lieu qui est lié à un sanctuaire. Je ne sais pas si c'est pas sanctuaire, des pénates de Pompéi.
Il y a ces arrondis.
Oui, une sorte d'exèdre. Ouais. Je crois que c'est un bâtiment cultuel. Je crois que c'est ce qu'on appelle le sanctuaire des pénates de Pompéi. C'est une sorte de sanctuaire des divinités topiques, des divinités de la cité, de la ville.
Il y a que là, il y a des arrondis presque que là.
Ouais. Ce qu'on appelle une exèdre, hein, c'est-à-dire une partie hémicirculaire. Pour terminer ça, je voulais vous montrer ceci aussi. On n'est pas à Pompéi. On est en Libye encore, on est au bord de la mer. On est à Leptis Magna, vous savez, cette ville dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Et alors, c'est quoi ça? Ça vous montre en parenthèse les travaux réalisés par Septime Sévère. Hein. Au IIIe siècle, Septime Sévère a fait réaliser des travaux assez importants.
Mais c'est peut-être
ce serait donc quoi, ça?
Peut-être un forum.
Alors, c'est sur le forum. Ah, c'est pas donc, c'est un élément du forum, parce que là, on est au bout du forum. Donc, ce serait quel élément au bout du forum?
Le temple.
Alors, c'est pas un temple. C'est la basilique. La basilique, c'est généralement de plan basilical. C'est ce qui donnera les églises.
Hein. Oui.
Hein, c'est-à-dire avec une nef, des bas-côtés, voilà. Et généralement, une ou deux exèdres, c'est-à-dire éléments de missaire, ça donnera les chœurs des églises. Voilà, ça c'est la basilique extraordinaire hein, de Leptis Magna, un gros beau bâtiment dont je ne sais pas ce qui reste encore aujourd'hui. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait penser à une cave de champagne.
Oui,
mais je ne voyais pas si bien dire.
Est-ce que ce n'est pas à Nîmes?
C'est des termes.
C'est pas à Nîmes, mais pas loin.
Alors c'est Arles.
Arles.
Alors ce sont.
C'est la partie souterraine. Ça s'appelle comment d'ailleurs? Les cryptoportiques.
Oui.
Hein, c'est ce qu'on appelle les cryptoportiques. Les cryptoportiques sont évidemment des éléments souterrains qui se situaient à quel endroit de la ville antique?
Sous le forum.
Et ils servaient à quoi ces cryptoportiques?
Les provisions, enfin
stockage,
les
stockages. Provisions, stockage. Alors c'est amusant parce que vous parlez du champagne. Ça, c'est les cryptoportiques de d'Arles. Hein. Mais à Reims, il y en a aussi. Ça, c'est ceux de Reims, hein, qui est également là, du forum. Hein, voilà. Pas sûr qu'on y mette du champagne dans l'Antiquité, mais enfin, on est en Champagne. Hein. Et puis, je voulais terminer, je pensais, par, quand même, un élément important de la cité, parce qu'on a parlé monuments, on n'a pas parlé du tout des maisons. Je trouvais important, quand même, de terminer par là. Je vous emmène dans la maison des Vetti, qui est une des maisons les mieux conservées de Pompéi. Hein. C'est charmant, quand même. Hein. Ouais, hein. Voilà, le plan de la maison des Vetti. Hein. Ce que je viens de vous montrer, c'est où?
Le M.
Non. Le M.
Ah non.
Je vous montre. Hein.
Je ne sais pas.
Le C, peut-être.
Voilà.
Le C.
Je ne sais pas. Non.
Elle avait raison, hein.
Ouais, alors...
C'est ça. C'est le même, hein. Tout simplement. Voilà. Alors, ça, c'est le plan de la maison des Vetti. Hein. Vous êtes quelques patriciennes ou patriciens romains, enfin pompéiens, qui habitent à Pompéi, donc, dans cette maison des Vetti. Vous entrez par où, d'abord?
Il n'y a qu'une porte.
Elle est où?
Elle est là, en haut.
Parce que moi, j'en vois une là aussi, hein.
Oui,
Vous rentrez là. Enfin, vous rentrez là si vous êtes un âne ou une mule. Parce que ça, c'est l'écurie. Non, je veux bien, hein, mais... C'est mieux pour mes cochons, hein, qui me donnent beaucoup de cartons dans ce moment. Bien. Voilà, vous entrez plutôt en
A.
Hein, voilà, en A. Et là, vous arrivez dans ceci. C'est quoi, ça? C'est l'atrium. Hein, l'atrium. Et voilà, au milieu de l'atrium, vous avez
l'impluvium.
L'impluvium, hein. C'est quoi cet impluvium? Voilà, hein, c'est-à-dire que ça correspond à un trou dans le toit, enfin un endroit où, où le tout n'est pas de toit, en fait, et comme ça, le puits vient dans l'immobilier. Voilà, très bien. Ensuite, donc, vous avez ceci, d'accord, hein. Qu'est-ce que vous avez comme autre salle qui peuvent correspondre à quoi, à votre avis? Par exemple, cette salle-là.
Bon, c'est un dortoir.
Un dortoir. Nous sommes chez les Vétis. Voilà, c'est ce qu'on appelle plutôt le triclinium. Hein. Voilà, qui, on est à Pompéi, il fait chaud, il fait bon. Voilà, hein. Donc ça ouvre effectivement sur cette sorte de jardin intérieur, hein, que vous voyez là. Hein. Il y en a un deuxième de jardin intérieur de l'Ouest.
En I.
En paix.
Tout petit.
Ah, tout oui, petit. Hein. Oh, ça n'a pas besoin d'être toujours grand, hein, pour avoir des petits jardins. Hein. Voilà. Alors, c'est des lieux où on pouvait effectivement cultiver des fruitiers, voire des légumes. Hein. Voilà. Vous en avez un autre, d'ailleurs, de triclinium ici. Hein. Et vous remarquez que de chaque côté de l'atrium, il y a généralement ce qu'on appelle des alaées, qui sont des espèces de salles qui donnent dans l'atrium. En fait, il y a une dimension, on va vous dire, assez polyvalente, à nouveau, hein, de ce genre de pièces. Hein. On n'est pas, même s'il y a quand même des fonctions assez précises, il hein, y a des salles qui peuvent passer d'une fonction à une autre, si vous voulez. Hein. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir, finalement, vous qualifieriez ce genre de plan, de quel genre de quel qualificatif? Oui, c'est si complexe que ça, vous trouvez?
Oui, quand
même. Oui. Oui. Moi, je trouve ça assez simple, au contraire.
Non, non.
Je trouve pas ça simple. Bon, je dois être habitué au lieu compliqué, là. Mais, parce que, si en plus, si vous tracez un axe de symétrie, en gros, vous avez, mis à part ces éléments-là, hein, vous avez quelque chose qui est assez symétrique. Hein, hein. Les maisons romaines, c'est généralement comme ça. C'est-à-dire que vous avez un élément relativement symétrique, si vous voulez, hein, auquel alors on peut adjoindre, notamment pour toutes les fonctions de domesticité, hein, des éléments complémentaires. Hein. Mais c'est-à-dire le, vraiment le béaba de la maison romaine, l'épine dorsale, c'est généralement l'entrée, l'atrium, avec l'impluvium, hein, c'est ce jardin sur lequel il y a un triclinium. Alors selon que vous avez du terrain ou pas, vous pouvez aussi mettre le triclinium dans le fond, hein, mais il y a une sorte d'organisation comme ça, assez géométrique. Alors encore une fois, selon le terrain que vous avez, vous vous achetez pas toujours le terrain que vous voulez, hein, après vous débrouillez, mais si vous voulez, vous avez quand même hein, une sorte d'orientation finalement très symétrique, quoi, hein, autour d'une sorte d'axe autour duquel les choses s'organisent. Hein.
C'est un lieu très fermé.
Pardon ?
C'est très sécurisé.
C'est relativement sécurisé. Je ne sais pas si je dirais ça, mais fermé, oui.
C'est fermé.
Oui, oui. Oui, il n'y a qu'une entrée.
Est-ce que les toilettes sont à l'intérieur ou il faut aller?
Non, c'est à l'intérieur. Non, tout ça est assez organisé. Voilà, vous retrouvez le vestibule, l'atrium, l'impluvium, le cubiculum, etc. Le cus. Alors, j'avais préparé une deuxième partie, mais il est déjà à la demi. Je ne sais pas ce que je fais. Parce que la deuxième partie, en fait, j'ai pas vu l'heure passer aussi vite que ça. Peut-être la prochaine fois, c'est peut-être plus. Hein. La prochaine fois, je voulais qu'on aille sur autre chose, on verra. Soit on fera tout à fait autre chose la fois prochaine, parce que je voulais quand même qu'on avance un peu dans le temps.
Et c'était quoi
voilà.
Ça?
Pardon?
C'était quoi ce qui était prévu?
Ah, ben je vais pas vous le dire. Enfin, encore vous allez pouvoir le voir sur votre USB. Donc. non, je voulais, je vous le dis, et puis je vais peut-être quand même prendre 5 minutes pour vous le montrer, parce que je n'ai pas très envie de reprendre ça la fois prochaine. Je voulais qu'on aille à Rome.
Ah oui.
Parce que on a le but, si vous voulez, de la séance d'aujourd'hui, dont je vous avais annoncé qu'elle était plus sur des questions d'architecture et d'urbanisme que d'architecture au sens propre du terme. Hein. On n'a pas, comme pour les Grecs, disséqué une élévation depuis les fondations jusqu'aux acrotères. Hein. L'idée était plutôt de voir quelle était la typologie des bâtiments de la culture romaine, finalement. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Et j'avais donc préparé tout un petit diaporama autour de Rome pour qu'on essaie, en allant dans Rome, de voir certaines choses. Je vous propose quand même peut-être pendant 5 minutes, si ça vous va. Hein. Voilà, on va faire ça vite. Ça vous dit quoi? Une porte. Hein. C'est la porte à Maggiore. La partie supérieure servait à autre chose, à quoi, à votre avis? Donc c'est une porte comme la porte d'Arou ou de Saint-André pour rentrer dans la ville, hein, sauf qu'on est à Rome et pas à Autun. Mais dans la partie supérieure qui est, vous voyez, très développée, sachant que le rempart lui-même montait plus haut, vous aviez quelque chose d'aménagé, de spécial, qui renvoie une des fonctions qu'on a vues tout à l'heure, mais dans un autre type de monument. Aqueduc. Quand vous regardez le côté, hein, vous avez des conduits avec deux aqueducs qui passent. D'accord. Quelquefois, le rempart est en même temps l'aqueduc, mais de toute façon, il y a bien un moment où l'aqueduc vient dans le rempart pour rentrer dans la ville. Et ça?
Oh, la pyramide de
Sélim. La pyramide. Hein, cette pyramide, c'est quoi?
Un tombeau.
C'est un tombeau. Hein. Alors, c'est bizarre, regardez, elle est dans quoi, cette pyramide? Qu'on appelle la pyramide de Sestius. Alors, elle est en marbre. Mais qu'est-ce qui se passe de la droite et à gauche?
Ah, mais tout
de suite. Elle est sur les remparts. Ah, vous avez la pyramide, puis vous avez le rempart. C'est quoi cette histoire? Parce qu'un tombeau, c'est un tombeau. C'est-à-dire que, voilà, il y a un tombeau, c'est pas dans les remparts. Quoi. Voilà, hein. C'est même à l'extérieur. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe là?
Elle a été construite après.
Elle a été construite après?
Ah oui.
Ou alors c'est l'inverse. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu la pyramide et on a construit le rempart après.
Ah, mais il y a eu différentes enceintes à Rome.
Exactement, il y a plusieurs enceintes à Rome.
Oui, oui.
Et ça, c'est la muraille aurélienne et qui a intégré, qui est plus large que la première muraille romaine. Hein, et on a donc, en élargissant la ville, eh ben, on a intégré au rempart des monuments funéraires antérieurs. Ça, c'est la pyramide de Sestius du 1er siècle. Pourquoi est-ce qu'on a fait une pyramide d'ailleurs en forme de tombeau? Voilà, c'est une référence au tombeau égyptien. Et ça? C'est la tour de Vézone de Rome, ça, hein?
Non, mais...
C'est quoi, ça?
Un amphithéâtre en réduction.
Un amphithéâtre en réduction, un petit amphithéâtre.
Non.
Au lieu de ça, on prendrait un gros gâteau.
Ouais. Un gâteau monumental. Une horloge.
C'est des termes, non?
C'est des
termes.
C'est pas des termes non plus. Une prison. Ça ressemble à celle d'Autun. Hein, la prison d'Autun, vous la connaissez?
Oui, qui est formidable.
Ça ressemble vraiment à ça. Mais c'est pas ça. C'est ça. Le mausolée de l'empereur Auguste. L'empereur Auguste avait son mausolée pas si loin de l'Arapacis que nous avons vu il y a quelques séances. Vous appelez l'Arapacis? Vous avez parlé du mausolée d'Auguste, que voilà. Alors à l'origine, il est vrai qu'il ressemblait à ça. Hein. C'est un peu plus complet. Hein. Aujourd'hui, il ne reste plus que ça. Bon, mais enfin, quand même, c'est le mausolée d'Auguste. Hein. Ça. Un arc de triomphe, c'est lequel celui-là? C'est le plus petit, le plus mignon, le plus... C'est Titus, ça, hein. Voilà, sur le forum. Hein. Donc vous savez maintenant ce que c'est qu'un arc de triomphe, pas de problème. Et ça? Pardon? Une tour défensive.
C'est pas la tour Saint-Ange?
Le château Saint-Ange?
Ah oui, c'est vrai, ça ressemble à ça.
Ça ressemble à ça? Un petit peu petit pour le château Saint-Ange.
Oui, c'est vrai. Hein.
En fait, les créneaux sont pas antiques, ils sont médiévaux. Zut. Eh ben, c'est pas une tour de défense. Qu'est-ce que c'est?
Alors, un tombeau.
Un tombeau. D'ailleurs, le mausolée d'Auguste, il est comment? Qui d'ailleurs n'était pas le mausolée, mais le tombeau d'Auguste. On l'appelle le mausolée d'Auguste. Il est rond. Voilà. Donc la forme ronde est volontiers une forme funéraire. Ça, c'est le fameux tombeau de Cecilia Metella.
Ah oui, sur la voie Appienne.
Hein, oui. Voilà, hein. La via Appia a été bordée de tombeaux. Ça, c'est un des plus beaux. Ça, c'est quoi? C'est l'hippodrome. On l'appelle comment, Rome?
Non.
Il a un mot.
Oui.
On l'appelle le Circus Maximus.
Voilà.
C'est ça, un cirque. Attention. Le cirque n'est pas un amphithéâtre. Les jeux du cirque, c'était là-dedans. C'est pas un amphithéâtre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le Circus Maximus, c'est l'emplacement de l'amphithéâtre, de l'hippodrome, pardon. Il n'en reste plus rien. Hein. Il ne reste plus que le creux, si j'ose dire. Au centre, il y avait la fameuse Spina, les gradins de chaque côté. À gauche, il y a les ruines du palais du Palatin, immense palais.
Oui, hein.
Derrière, c'est... après, il y a le Forum romain.
C'est aplati, là.
Oui, c'est un peu aplati. Oui, le Circus Maximus, ben, il en reste vraiment plus grand-chose.
Hein. Non, mais...
Et ce silo à grains, là?
Ben non, parce que c'est assez ouvert.
Oui, c'est assez ouvert.
Ben, les termes.
Pardon, ça ressemble à un tombeau. Pour une fois que ça pourrait en être un, ça n'en est pas un. Ça, c'est le palais de Néron, qui s'appelait la Domus Aurea. La Domus Aurea est du côté du Forum. C'est un immense palais au centre de la ville, construit en grande partie en briques et en béton, mais tout ça était couvert de marbre, de peinture. Aujourd'hui, c'est un peu râpé, si j'ose dire. Hein. Mais à l'époque, c'était extraordinairement décoré. Hein. Et la Domus Aurea de Néron, c'est une grande partie de la ville de Rome. Hein. Néron n'avait pas lésiné, mais enfin, Néron, il ne lésinait pas trop, comme vous le savez. C'est le Panthéon. C'est quoi le Panthéon ?
Ah non.
C'est quoi ?
C'est pas une église.
C'est un temple. Alors maintenant c'est une église, mais à l'origine c'était un temple. Un temple en l'honneur de qui ? Construit par Agrippa, mais un temple pour tous les dieux. C'est un Panthéon. Ce temple, il a quoi de spécial au niveau de son plan ?
Il est parfaitement circulaire.
Voilà,
mais
un temple circulaire.
Mais il est ouvert.
Il est
ouvert.
Ouvert sur le dessus, vous voulez. Oui, comme la Domus Aurea qu'on vient de dire.
Oui. Hein.
Voilà. Donc, il y a en effet une grande rotonde, mais à l'avant, il y a le portique que vous voyez là. Hein. Panthéon.
Les thermes.
Les thermes. Ceux de qui ? Caracalla. En Rome, les plus grands thermes sont ceux de Caracalla, qui avait mis des bouchées doubles. Hein. Le Colisée. Pourquoi est-ce qu'on appelle le Colisée, le Colisée ? Parce que c'est l'amphithéâtre. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Colisée ? Et pourquoi ? Alors, il est grand, donc c'est un colosse. Hein. Ça pourrait être une solution. C'est pas loin, mais c'est pas la raison. Mais c'est pas loin. Il se trouve que juste à côté du Colisée, Néron avait fait élever une statue colossale de lui-même. Un colosse. Hein. Alors, le colosse a disparu, mais le nom restait. C'est pour ça que le Colisée s'appelle le Colisée. À cause du Colosseum, du colosse de Néron, qui se trouvait juste à côté. Il y a encore la base, il n'y a plus la statue. C'est pour ça que le Colisée s'appelle Colisée. Voilà. Trois ordres.
Oui.
Vous reconnaissez. Oui. En bas.
Ionien. Dorique.
Au dessus. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein.
Dorique.
En bas, c'est toujours.
Dorique.
Dorique. Dorique. En dessus.
Ionien
et
Corinthien.
Parfait. Oui, toujours dans cet ordre-là.
Mais à l'intérieur.
Et pourquoi il y a, ça c'est l'intérieur, la fameuse arène, pourquoi il y a plein de creux ?
Parce que c'était...
Voilà, c'est ce qui est en dessous, le plancher, entre guillemets. Ça servait à quoi ? Voilà. Voilà. Et puis on a des pneumachies, c'était assez pratique, hein, pour amener l'eau, l'évacuer...
Alors, c'est ça, le Château Saint-Ange.
Et le Castellan Saint-Ange.
Oui. Hein.
Mais c'est quoi, Château Saint-Ange ? Parce que Château Saint-Ange, c'est la fonction renaissante, je dirais, de ce monument. C'était quoi, d'antiquité, ce monument ? Non. Enfin, ça a une forme de tour circulaire, mais c'est pas une tour. Pardon ?
Un mausolée.
Un mausolée. Mais celui de qui ? Il a été fait en référence à qui, d'ailleurs ? On n'a pas déjà vu un truc un peu équivalent ?
Auguste.
Auguste. Mais Auguste est déjà enterré, on ne va pas le renterrer une deuxième fois. Donc ça, c'est un mausolée fait en référence au mausolée d'Auguste. Par quel empereur ?
Adrien.
C'est le mausolée d'Adrien, qu'on a transformé plus tard en château Saint-Ange. Hein. Mais toute la base, pas la base supérieure, hein, c'est le mausolée d'Adrien, qui ressemblait à ça. Comme, un peu comme le mausolée d'Auguste. Alors ça, par contre, c'est trop compliqué. Peut-être qu'on fera, parce que je voudrais quand même qu'on s'arrête là, c'est fait un petit peu tard autrement. Mais ça, on essaiera peut-être de faire un petit truc là-dessus la fois prochaine.
Et les immeubles collectifs, on en a encore des traces.
Oui, bien sûr. Justement, pas très loin de là. Bon, mais là, on va peut-être s'arrêter là, parce que ça nous amènera un petit peu. Bien, bah, bravo.
Ah, bah, merci. Non, mais c'est cool.